des animaux, Quentin, loup et les autres. Je m'adresse à Quentin Loup parce qu'ils sont parmi les plus proches de moi avec Louise. Vous savez tout, même sans caméra, c'est fabuleux. Et nous allons parler de l'animal. Serait-il un homme comme les autres? Je vous pose cette question un peu provocante. L'animal est-il un homme comme les autres? Pourquoi? Parce que certains députés ont suggéré que désormais, alors que c'était le cas jusqu'à maintenant, dans la loi française, l'animal ne soit plus considéré comme une propriété, comme un objet, comme une chaise ou comme une table. Ils voulaient aller jusqu'à ce que la loi dise que ce soit des êtres humains. Il y a eu quelques oppositions d'agriculteurs notamment et de gens qui travaillent entre guillemets avec les animaux et ça a créé trop de contraintes pour eux. Donc une loi intermédiaire pour l'instant a été votée qui consiste à considérer les animaux comme des êtres doués de sensibilité. Alors d'après vous, faut-il aller plus loin? Est-ce que c'est légitime de l'avoir fait déjà ce premier pas? Ou est-ce que après tout, on ne peut pas comparer un être humain à un animal? Et ça n'est pas du tout la même chose et ça n'a pas, doit pas avoir le même statut légal. Loup?
Déjà, premièrement, moi je serais plutôt du genre à prendre le sujet dans l'autre sens. Est-ce que l'homme est-il un animal comme les autres? Parce que de base, l'humain est un homme. L'inverse.
Non, l'humain est un
L'humain
homme
est un homme,
jusque-là.
oui. L'humain est un animal, mais c'est lui qui s'est auto-décrété, entre parenthèses, humain, quoi. Moi je serais plutôt du genre à prendre dans l'autre sens.
Bah, la loi est faite par les hommes, ça c'est une
Oui,
évidence.
c'est ça.
Donc, du coup, tu voudrais inverser la chose. Donc, ça te
Non,
paraît
pas.
normal cette loi.
Moi, ça me paraît totalement normal.
Et tu irais encore plus loin jusqu'à dire que c'est un être vivant au même statut, au
Bah,
même rang que l'être humain, avec les mêmes droits, peut-être un peu compliqué, les
oui,
mêmes
voilà, c'est un peu
devoirs,
compliqué parce que faire
encore
voter une
plus.
vache, c'est un peu. Je pense que ce serait
C'est
bizarre.
ça, nous sommes d'accord. Faut peut-être pas aller jusqu'au
Non,
ridicule
c'est
non
ça,
plus.
voilà.
Louise, la petite nouvelle.
Moi, je pense que c'est un petit peu exagéré parce que certes, les animaux, ben, enfin, ils sont quand même des êtres vivants, mais de là à avoir, voilà, c'est ça, les mêmes droits ou même, ça leur servirait pas à grand-chose, je pense. Et puis, il vaudrait mieux laisser faire la vie comme ça. Et de toute façon, les animaux, ils ont toujours été comme ça, je trouve. C'est normal, mais en même temps, il faudrait quand même mettre des lois pour les protéger un peu plus parce qu'il y a beaucoup d'espèces en voie de disparition et ce serait utile.
Oui, puis il y a des débats aussi, vous savez, autour de la façon dans les abattoirs où on, avant de les manger, on va tuer les animaux. C'est aussi par rapport à ça que certaines personnes veulent rigidifier un peu la loi. Après, à moins qu'on soit tous végétariens, forcément. On a des messages bizarres à l'écran, ça me fait penser, j'ai cru que le téléphone sonnait. Il a sonné d'ailleurs il y a quelques minutes, quand on est un léger retard à l'allumage, et je remercie l'auditrice, je crois, puisque c'est Julien qui l'a eu au téléphone, qui nous a signalé que c'est Joris, pardon, merci Joris, c'est le spécial du téléphone, c'est vrai, il n'a pas perdu, entre autres, cette habitude, qui nous a signalé qu'on ne passait pas encore à l'antenne. Donc grâce à elle, nous y sommes, merci madame, je ne sais pas d'où vous appelez, qui vous êtes, mais grâce à vous, nous sommes cette fois-ci bien en direct sur 107.5, la radio. Du Diwa, la radio des Diwa et même au-delà. Jimmy et Louis voulaient dire quelque chose sur les animaux.
Tout à fait. En fait, je pense que cette voie était plus que nécessaire parce que quand on voit les choses ignobles qui pouvaient être commises sur les animaux, c'était plus que pas normal en fait. Enfin, c'est, ils pouvaient en abandonner un comme ça à n'importe quel endroit, il mourait de faim, il le tuait même pas encore s'il le tuait à la rigueur. Au moins, il souffrait pas, mais il faisait rien et il les laissait mourir ou alors il les laissait vivre dans des conditions ignobles. Et je pense qu'on, avec cette loi déjà, on pourra rigidifier ça et faire qu'il y ait des choses plus justes envers quand même, car ce sont quand même des êtres vivants. Et bon, par contre, de là à les considérer comme des humains avec des droits, tout ça, ça risque d'être beaucoup, d'être très compliqué. Et après, ce sera carrément empêché d'avoir un chien chez soi.
Oui, ou de manger des animaux.
Ouais, ou
Alors,
de.
pourquoi pas, mais enfin, du coup, ça nous
Non,
obligerait à être tous
c'est.
végétariens par définition. Si on pousse le respect des animaux jusque-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de raison de les tuer, d'une certaine manière, pour les manger. Alors, les chiens, pas trop en Europe, mais dans d'autres continents, si. Ça se fait aussi. Louis?
Donc moi je pense que les avoir nommés comme êtres doués de sensibilité, c'est une bonne idée. Après de là, les considérer comme des êtres humains, certes on peut leur accorder des droits, même s'ils les mettront pas en œuvre, parce que les droits pour des animaux, c'est ils vont pas avoir la même utilisation des droits que nous. Mais après de là, leur accorder des devoirs, je vois pas comment ils vont aller voter. Ils sont incapables d'appliquer des devoirs que même les mêmes devoirs que nous, en fait.
Bon, alors ils n'ont pas la parole par définition, donc c'est sûr qu'ils ne peuvent pas revendiquer leurs droits. Et c'est aussi pour ça que ceux qui veulent les protéger veulent aller au-delà des protections actuelles. Alors vous n'êtes pas d'accord avec Louis, vous êtes d'accord avec Louis, vous n'êtes pas d'accord avec Jimmy, vous êtes d'accord avec Louise. Appelez le 0 952 368 531. 0952 368 531. C'est très bien de nous appeler pour nous dire que ça ne marche pas, mais quand ça marche et quand nous sommes à l'antenne, n'hésitez pas, madame peut-être, ou quelqu'un d'autre, à rappeler ou appeler tout court pour donner votre avis et débattre avec ces jeunes gens. C'est Lou qui veut reprendre la parole, nous la lui donnons avec plaisir.
Pour la loi, je suis totalement d'accord avec Louis, donc le fait qu'il soit considérés comme des êtres sensibles, c'est totalement normal parce qu'ils ont, ils sont, je pense, tout autant sensibles que nous. Mais oui, voilà, enfin, les considérer comme des êtres humains, ça voudrait dire des droits et des devoirs. Des droits, je suis totalement d'accord avec ça. Donc le droit d'une vie normale, enfin, pas maltraitée, ça, les excès qui sont faits, par exemple, un exemple, des chiens qui sont abandonnés n'importe où, qui sont nourris, qui sont battus, enfin qui sont nourris à peine nourris, qui sont battus, c'est inadmissible, quoi.
Bien sûr. Et puis le fait de dire qu'ils sont doués de sensibilité, je pense que ça rejoint encore ce qu'on disait tout à l'heure. C'est une manière d'être le plus doux entre guillemets possible, si tant est que ça soit possible, quand on va les envoyer à l'abattoir. C'est un peu un argument supplémentaire, je pense.
Parce que c'est vrai qu'ils sont pas comme tous les autres, comme tous les êtres vivants. C'est-à-dire que si on part de ce principe-là, un arbre ou une feuille est un être vivant. Mais je pense pas qu'ils pensent et qu'ils aient des sentiments, alors qu'un chien peut, quand un chien ou même n'importe quel animal a des sentiments et pense sûrement à sa façon.
Lucien ?
Après, moi je disais sur le fait qu'un animal, on a parlé beaucoup des chiens, des chats et tout ce qui est animaux domestiques, mais aussi le fait de changer nos habitudes alimentaires, parce que si on veut arrêter de considérer les animaux comme des êtres humains ou du moins sur le même plan, il faudrait essayer de changer les conditions de vie en abattoir et tout ça, parce qu'on a des habitudes alimentaires qui font que, surtout en Europe et dans ces pays-là, font qu'on mange énormément de viande, ce qui fait qu'il faut en abattre encore plus, il faut avoir des élevages intensifs pour avoir une quantité de viande suffisante et qui suffit à la demande. Et du coup, ça fait que les conditions de vie en abattoir, les conditions de vie avant l'abattoir se détériorent encore plus. Et ça va contre la loi justement qu'ils sont en train d'établir, quoi.
D'accord. Tu voulais dire quelque chose, Flora ?
Oui, moi je pensais qu'il y a aussi peut-être une différence entre les animaux de compagnie.
Parle bien en face du micro, parce que je crois qu'on t'entend pas très bien.
Il y a peut-être une différence entre les animaux de compagnie et les.
Alors il y a un petit souci de micro, tu vas emprunter celui de ta voisine Clémence, voilà, c'est beaucoup mieux.
Donc je pense qu'il y a une différence entre les animaux de compagnie et les animaux qu'on élève. Parce que les animaux de compagnie, c'est nos amis presque. En gros, on joue avec eux et tout. Tandis que les animaux qu'on élève pour manger, c'est pas du tout pareil. On n'a pas du tout. Je pense qu'on les considère pas du tout pareil qu'un chien ou un chat qu'on a dans notre maison. Ou, voilà.
Alors, il y a des pays où on mange le chien quand même.
Oui,
mais après. C'est pas qu'une question de sentiment. Cette loi, elle est votée pour justement les animaux en général. C'est vrai que nous, quand on pense à ça, on a plus tendance à penser aux chiens et aux chats qui sont des animaux qu'on a chez nous et dont on s'occupe, comme tu dis. Mais après, là, c'est généralisé aux êtres vivants, enfin aux animaux.
Parce que les agriculteurs, en général, sont par définition, entre guillemets, proches de leurs animaux et ça les empêche pas à un moment donné. Voilà, d'être proche, entre guillemets, hein. Mais de s'attacher à leurs chevaux, à leurs vaches. Et après, malheureusement, on connaît le dessin de ces animaux-là. Hein. Ils vivent avec eux pendant quelque temps, ils les élèvent, ils les respectent autant que faire se peut. Oui ?
Mademoiselle ?
Ah, on a un petit appel peut-être juste avant, pardon, on t'écoute juste après. Non, vas-y, pendant qu'ils s'occupent de savoir qu'il y en a au bout du fil, tu peux t'exprimer, vas-y, commence.
Moi, je voulais revenir donc sur les agriculteurs. Oui, peut-être qu'on a de la passion pour le métier. Enfin, personnellement, moi, mon père, il est agriculteur. Il élève des brebis et il tient ses brebis. Mais bon, après, c'est quand même pour nourrir la planète. Et donc, il y a un sentiment de tristesse quand on les vend. Mais bon, c'est comme ça. Et c'est pour la
chaîne
bonne cause.
Et de animal-homme, on va dire.
Voilà,
voilà,
tout à fait.
C'est la vie aussi. On a quelqu'un au bout du fil, un auditeur, Joris ?
2 secondes.
2 secondes, nous demande Joris. Nous les prenons volontiers.
Voilà.
Allô ? Oui, bonjour. Monsieur, me semble-t-il, vous entendez un peu loin.
Votre débat est très intéressant et le fait de faire participer les élèves, c'est une très bonne idée. Mais je pense que les députés auraient mieux à se préoccuper que des droits des animaux, qu'il s'agit bien sûr de respecter. Mais au niveau des êtres humains, il y a encore beaucoup de droits qui ne le sont pas.
D'accord, donc vous vous placez sur le plan des priorités, on va dire, et vous pensez qu'il y aurait d'abord à s'occuper des êtres humains. Vous pensez que ce n'est pas le cas ? Est-ce qu'on ne peut pas faire les deux ?
On peut faire les deux, mais enfin, les humains sont, à mon avis, prioritaires. Bon, et comme je le dis, il s'agit bien de respecter les animaux. Et ça, certains maîtres pourraient être éduqués dans ce sens-là, d'ailleurs. Mmh. Et je trouve qu'il y a des débats qui sont un peu stériles au niveau de notre gouvernement.
D'accord.
Il faudrait mieux prendre les choses dans l'ordre. C'est une question de priorité, comme vous dites.
Si je puis me permettre, il y aurait d'autres chats à fouetter. Et d'autres lois plus humaines que concernant les animaux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui, assez d'accord. On a beaucoup de problèmes en ce moment. Bon, après, c'est quand même quelque chose qui reste problématique et dont on devait s'occuper à un moment ou un autre. Mais c'est vrai que dans la situation actuelle, je pense que c'était pas la meilleure chose à faire. Il y a peut-être d'autres choses à faire.
Il y a déjà l'exemple, la fin dans le monde, quoi.
Oui,
avec un milliard
d'habitants. Il y a de quoi faire, ne serait-ce qu'avec ça. Bah, merci. Monsieur, vous avez une autre question à poser? Enfin, c'était pas une question, c'est une observation.
Je ne peux que vous encourager à continuer votre émission qui est très intéressante. Je vais d'ailleurs écouter la suite avec intérêt.
Bon, vous êtes un fidèle de CCC?
Bon après-midi à tous.
Vous êtes un fidèle de CCC?
Ah oui, tout à fait. Oui, c'est une émission originale et c'est vrai que je l'apprécie beaucoup.
Bah, écoutez, c'est très gentil. Les lycéens vous remercient. Ils ont le sourire jusqu'au bout. Voilà, il y a un merci collectif. Continuez à nous écouter, c'est gentil, ça nous encourage.
Il n'y a pas de problème. Au revoir.
Au revoir, monsieur.
Au revoir.
Au revoir.
C'était un au revoir collectif. Et un merci collectif. D'autres choses sur les animaux avant qu'on passe au sujet numéro 2? Oui, Romane, pardon.
En fait, juste, moi, je voulais faire remarquer, si à un moment, enfin, il ne faut pas que ça aille trop loin, parce que les animaux, si à un moment, ils sont considérés comme des humains, bah, alors il y a un moment où, dès qu'on écrase un hérisson sur la route le soir, alors on va en prison, enfin, comme si on avait tué quelqu'un de vérité, enfin... un humain, je veux dire. Et pareil pour l'idée de devenir végétarien. Ben, techniquement, les animaux, ils se mangent entre eux. Donc si on est tous égaux, comment on fait? On se chasse tous.
Oui, ce que tu dis est assez juste. Alors, elle parlait, Flora, tout à l'heure des animaux familiers. C'est vrai qu'à mon avis, ils pensent plutôt à chien, à chat, peut-être à cheval, qu'à hérisson quand ils font ces lois-là.
Oui, non, mais
après
un
tout,
chien
c'est
qu'on
un animal.
Sur la route, c'est la même
oui,
chose.
Oui, et puis on va pas faire de hiérarchie non plus. On va pas dire pour les hérissons, on fait pas la loi, et pour les chiens, oui, alors ça va devenir très compliqué. Et là, comme disait monsieur, il y aurait d'autres priorités, effectivement. Lou ?
Donc moi, je rejoins exactement l'avis de Roman, dans le sens où si on veut faire que tous les animaux soient au même piédestal, il faudrait que ça aille jusqu'au bout. Donc voilà, écraser un chien sur la route, ce serait équivalent à un meurtre. Et je pense que ce serait impossible, parce que ça voudrait dire pour les fourmis, c'est pareil. Alors, tu vas marcher dans la forêt, t'écrases 10 fourmis, tu vas en prison toute ta vie, ce serait impossible.
Bon, peut-être pas faire tous les animaux,
voilà.
Après les hérissons, les fourmis.
Non, je suis désolé.
Mais effectivement, il faudrait établir une hiérarchie à l'intérieur des animaux. Ça rappellerait des choses bizarres sur les êtres humains, aussi, si on fait des hiérarchies à l'intérieur des animaux.
C'est,
voilà.
C'est ça qui, je pense, qui pourrait pas être fait, c'est que. Enfin, ils veulent faire quelque chose d'égal, sauf que si on veut pousser jusqu'au bout, il y aura forcément des inégalités. Donc, je pense plutôt s'intéresser à ce qui nous concerne en premier, donc les êtres humains. Et voir pour les animaux ensuite, mais tout en étant juste.
Et puis peut-être punir davantage ceux, si on les prend flingant délit, c'est compliqué,
exactement.
Mais qui abandonnent leur chien ou leur chat avant de partir
exactement.
En vacances, hein, ça
voilà.
C'est sûr. Oui, Louise.
Mais aussi, si on ne se préoccupe pas des affaires de maintenant, après, je veux dire, par exemple, l'exemple de l'eau, si on regarde s'il n'y a plus d'eau, il n'y aura plus d'animaux, du coup, on n'aura plus besoin de faire des lois, mais il faut se préoccuper du moment actuel, quoi. Je ne sais pas comment expliquer.
Bah là, il n'y a plus personne s'il n'y a plus d'eau. Hein.
Alors, on parlait déjà de l'eau dans le CCC précédent avec le barrage de Sivens. On y revient toujours, finalement. Jimmy, dernière chose, peut-être.
En fait, faire ces lois et les considérer comme des êtres humains, ça veut dire considérer qu'ils sont, entre guillemets, intelligents et qu'ils ont une intelligence comme l'être humain, qu'ils sont capables de raisonner. Et ce qu'on sait qui est totalement faux, c'est-à-dire que, sauf, mis à part si on leur apprend, on peut leur apprendre des choses, mais un chien ne se dira pas de lui-même, faut pas que j'aille sous la voiture. Ou alors ce sera son instinct de survie, ce sera pas son intelligence qui réfléchira à ça.
Oui, c'est bien pour ça que c'est doué de sensibilité
doué
que
de sensibilité,
pour l'instant la loi a proposé
je
et pas de,
c'est très juste.
De raisonnement, effectivement. Je pense donc je suis, hein, depuis Descartes, on n'a pas fait beaucoup mieux, et c'est l'être humain qui est défini ainsi, par la pensée, pas les autres animaux, a priori jusqu'à preuve du contraire. Et je crois que Ilan et c'était aussi... quelqu'un d'autre qui me semble qui voilà voulait prendre la parole. On écoute Ilan d'abord.
Oui, moi je voulais je pense en général que bon bah de toute façon l'humain il est quand même un peu plus on peut dire que c'est l'animal le plus évolué quoi qui a su développer une forme d'intelligence, se regrouper inventer des choses quand même assez inimaginables
faire
que...
la guerre.
Oui. Ah oui, non,
c'est provocateur. Développer une forme d'intelligence, se regrouper pour se faire. Non, mais heureusement pas que ça.
Une
mais
forme
aussi...
d'intelligence supérieure. Enfin, supérieure, je sais pas, parce qu'il y a aussi d'autres animaux qui sont, par exemple, les dauphins, ou qui développent des formes de. Enfin bon, c'est des débats actuels, de la télépathie. Voilà. Mais du coup, je pense que on peut quand même imaginer une forme de respect pour les animaux. Donc, par exemple, l'élevage peut se faire dans des circonstances, enfin des un peu respectables pour les animaux, quoi, que ce soit pas l'élevage intensif. C'est vrai que c'est un peu.
En tout cas, on sait que les animaux peuvent soigner, entre gros guillemets. Hein, mais on sait que ça apaise les enfants malades, par exemple, et que ou les adultes aussi d'ailleurs. Ça a été prouvé. Et que caresser un animal familier, s'attacher à lui, ça peut permettre d'aller un peu mieux. Pas de maladie forcément très grave, mais aussi et d'apaiser la conscience, de se calmer, de se poser un peu et de se concentrer sur le lien affectif qu'on a avec l'animal. Et les dauphins aussi, je crois qu'il y a pas mal de choses qui ont été prouvées effectivement à leur endroit. Monsieur Lucien.
Ouais, je n'étais pas exactement d'accord avec ce que disait Ilan sur le fait que...
Allons bon, on est là pour ça, vas-y.
Sur l'évolution qu'on a avec les animaux, parce qu'on a exactement la même évolution, ça fait quand même 3 milliards d'années maintenant que la vie est sur Terre à peu près. C'est-à-dire qu'au début il y a une cellule, et en fait on a tous évolué différemment. On est au même stade d'évolution par exemple qu'un escargot aujourd'hui. Bah, il a évolué, ça fait autant de temps qu'il évolue, c'est ça que je veux, dans ce sens-là que je veux en venir.
Mesdames et messieurs, chers auditrices, chers auditeurs, si jamais on a oublié un animal qui vous tient à cœur, après les fourmis, l'escargot maintenant, et tout à l'heure j'en ai oublié un, c'était... C'était le hérisson, pardon. N'hésitez pas à nous appeler au 0952 368 531. Tout le monde a donné son avis sur les animaux. On peut passer au sujet numéro 2. Oui, vous êtes d'accord?
Oui.
Vous les chefs ici. Hein. Donc sujet numéro 2, c'est la fameuse exposition. Donc le zizi sexuel, c'est son nom. Le nom indique à quel type de public quand même ça s'adresse, plutôt des enfants relativement jeunes. Et justement, c'est ce qui scandalise, je ne sais pas, mais c'est ce qui a fait protester un certain nombre de parents, peut-être un peu conservateurs et inquiets que leurs enfants voient des choses qu'ils ne devraient pas voir. Vous êtes un peu renseigné sur cette expo, on va peut-être commencer par Roman, qui donc l'a vu même s'il y a longtemps. Tu avais quel âge à peu près?
Je devais avoir 10 ou 11 ans, je crois. Un truc
d'accord,
comme ça.
Oui, je pense que c'est à peu près la cible qui...
Ouais, mais
qui
mes souvenirs sont un peu vagues.
Sont un peu vagues. Mais est-ce que tu en es sorti choqué, depuis 2007, me montre Monsieur Quentin qui a fait des recherches. Elle existe depuis 2007, donc c'est déjà plus que ce que je dis encore.
Non, franchement, moi, j'ai pas du tout trouvé ça choquant. Enfin, principalement, ça s'adresse à un jeune public quand même. Enfin, c'est pas, ils ont quoi. Enfin voilà, ils ont une dizaine d'années, un petit peu plus peut-être. Donc, enfin, moi, je trouve ça vraiment pas choquant. Enfin, c'est juste pour, c'est juste une histoire de découverte de son propre corps. Et donc, enfin, franchement, je trouve que c'est à la limite une bonne idée. Et je vois pas pourquoi on serait choqué par ça.
Mmh. D'accord, Louise.
Moi, je suis d'accord avec Roman parce que j'ai vu qu'il y avait plus de 37 000 signatures contre cette exposition. Et je trouve ça un petit peu exagéré comme le sujet d'avant. Parce que c'est quand même à travers un personnage de BD, donc c'est à travers Titeuf. Et c'est pas non plus choquant. Ça explique juste la sexualité aux enfants et c'est pas horrible, je trouve.
C'est effectivement inspiré de Titeuf, tu as raison de le dire. Oui, je disais certains parents, tu as trouvé un chiffre visiblement plus précis que moi, 37 000, c'est quand même pas rien, hein, un certain nombre, oui, je confirme. Enfin, d'adultes, hein, j'imagine que c'est des parents qui, je sais pas si tu as eu l'affinage du chiffre, mais j'imagine, c'est pas des enfants qui doivent écrire pour dire j'ai été choqué. Il peut y en avoir, hein, dans l'eau, je dis pas le contraire, mais j'en doute un peu quand même, et en général, c'est les adultes qui, voulant protéger les enfants, probablement, émettent des réserves. Quentin et puis Jimmy.
Ouais, moi je pense que aussi qu'il faudrait garder cette exposition parce que c'est vrai qu'en 2007 elle a eu un grand succès. Ensuite elle a fait un voyage de 7 ans en Europe et dans toute la France et donc il revient cette année à la Cité des Sciences et de l'Industrie. C'est vrai qu'aujourd'hui le contexte il a sensiblement changé. L'usage généralisé d'Internet comporte certains risques, comme l'accès de plus en plus précoce à la pornographie. Mais il y a aussi.
C'est pas le sujet de l'expo, hein, la pornographie, pour le coup.
Oui, c'est sûr, non, mais ça. Comment dire?
Tu penses qu'aller voir ce genre d'exposition, ça pourrait inciter les enfants à aller voir des films pornographiques, pour dire les choses clairement?
Non, justement. Non,
non pardon, pardon, je croyais que tu disais le contraire.
Non, justement, vaut mieux qu'ils aient voir. Excuse-moi. Et cette exposition permet de les
d'accord.
informer.
Au contraire, d'avoir de vraies infos et pas de fausses infos, on va dire ça comme ça, des films totalement imaginaires.
Voilà, c'est
on
ça.
Est d'accord. Hmm. Ensuite, Jimmy, de nouveau. Puis Lou, de nouveau.
Je suis assez d'accord avec ce que dit Quentin. En vrai, il vaut mieux qu'ils aillent voir une exposition comme ça, qui est quand même faite à la base pour les gens de leur âge, donc qui, je pense, est nullement choquante et que c'est comme vous avez dit. des parents trop conservateurs qui sont eux-mêmes allés voir l'exposition avec leurs enfants, donc voilà, qui disent que cette exposition est choquante. Mais je pense qu'il vaut mieux qu'ils l'apprennent à travers une exposition faite pour les 10-11 ans, plutôt qu'ils l'apprennent voilà, en allant voir sur Internet pour avoir des informations, ce que leurs parents allaient laisser, on ne sait jamais sur quoi ils peuvent tomber.
Puis c'est assez ludique, hein, parce que j'en ai vu, moi je ne l'ai pas vu en vrai, contrairement à Mademoiselle Romane, mais voilà.
Oui, c'est ça, enfin il y a plein de jeux, il y a plein
on appuie sur des boutons, voilà, tout, on voit des endroits du corps, enfin c'est plutôt. C'est comme quand on jouait au Docteur Maboul, vous connaissez le Docteur Maboul, ça existe encore ça ?
Oui, oui.
Bon là c'était plus chirurgical, on va pas comparer ça, mais voilà, c'était ludique aussi, on découvrait mine de rien, voilà, où était le poumon, où était le cœur, où était le genou, et le reste donc, puisque l'exposition parle d'autres éléments de l'anatomie. Louise. Lou d'abord, allez. Okay. Elle est élégante, c'est honneur aux garçons.
Normal,
c'est match de malheur.
Non, moi c'est juste, je suis pas allé voir l'exposition. Par contre, il y a 5 ans maintenant, mon frère avait le guide du zizi sexuel que sa maîtresse lui avait offert, je m'en rappelle. Et je l'ai lu quand j'avais 10 ans, je crois.
J'ai lu aussi.
Voilà, et aussi. Franchement, il est bien. Comment dire ? Il est instructif, c'est quelque chose.
Tu avais quel âge toi tu
Moi, j'avais 10 ans. Enfin,
Et lui avait
Non, c'est. Lui avait 10 ans.
D'accord. Toi, t'étais plus âgé.
Non, contraire. Je suis plus jeune que mon frère.
D'accord, donc c'est tombé entre tes mains aussi. Ça t'est tombé des mains.
Plus tard, c'est tombé. Plus tard, je l'ai lu. Franchement, je pense que c'est quelque chose qui est nullement choquant et qui est même plutôt intéressant.
Et c'est même plutôt drôle.
Oui, il y a beaucoup de comiques avec Titeuf, etc. Donc,
Louis aussi, tu connais?
Ouais, j'avais le même livre.
Il a plutôt du succès d'ailleurs, même beaucoup de succès.
Il est très bien.
Ah, Titeuf, c'est le nom du personnage, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et c'est Zep, effectivement, vous avez raison. Louise, et puis la jeune Marion.
Moi, je sais que quand j'étais à la bibliothèque, il y a, je sais pas, 2-3 ans, pareil, j'ai un enfant qui m'a demandé de lui lire ce livre. C'était un petit peu délicat, mais quand je l'ai lu, je pensais que ça allait être plus, pas violent, mais moins explicatif. Et finalement, c'est vraiment bien expliqué et ouais, ça choque pas trop. Enfin, c'est drôle aussi. Puis c'est un personnage connu et un auteur super connu. Donc c'est pour ça aussi que je pense qu'il y a eu beaucoup de lecteurs.
Pendant que Jimmy fait une petite sieste, on va écouter Marion.
Donc moi,
Jimmy, un petit coup de fatigue. Hein. Vous savez, j'aime bien vous donner les coulisses. Hein. Il s'est un petit peu allongé sur l'étagère. Non,
on
pas allongé sur l'étagère.
Pour attendre
accoudé sur l'étagère.
On est bien comme
pour attendre la suite.
La suite ou le prochain D'accord. moment où on aura envie de parler.
Mais ça n'empêche pas d'écouter. Hein. Notamment la jeune Marion, c'était une boutade. Nous écoutons Marion.
Donc moi je voulais revenir sur ce que disait Louise par rapport aux parents ou aux gens qui sont contre cette expo. S'ils sont choqués, ils amènent pas leurs enfants. Et s'ils sont, ils sont d'accord et ils pensent que ça peut les instruire, ils les amènent. Et aussi je voulais parler du personnage de Titeuf. Donc c'est bien que ce personnage connu, il représente un peu le livre. Mais après, quand on lit les BD de Titeuf, ça tourne aussi un peu autour du sexe, donc ça correspond bien.
Mathieu fait un peu la sieste aussi aujourd'hui, on ne l'a pas encore entendu. Non, il n'a pas d'avis sur la question.
Non, moi j'ai juste à dire que tant que c'est adapté au public, on peut aborder n'importe quel sujet, tant que c'est pas trop extrême. Quoi. Mais bon. Donc non, je trouve pas ça spécialement choquant.
Joris et Julien, vous avez un avis vous sur la question? Vous êtes plus grand encore que la majorité de ceux qui sont ici, mais c'est pas vraiment la
un avis, pas forcément. Après, moi, j'ai ma copine qui y allait durant les vacances de la Toussaint. C'est pas elle qui y allait, c'est sa petite sœur, et c'est vrai que c'est relativement intéressant. Sa petite sœur est en 6e. Je pense que ça lui a plu, du moins le retour que j'en ai eu. Et il y a surtout quelque chose qui lui a plu, c'est qu'il y avait une petite salle qui était réservée uniquement aux enfants, où les parents ne pouvaient pas rentrer. C'était assez.
Ça va faire peur aux parents.
Non, mais
pétitionnaire, ce que tu dis.
C'est justement le principe, je trouve, qui est vraiment axé sur l'éducation de l'enfant. Et sans créer le mystère qui pouvait tourner un petit peu avant, voilà, sur le sexe, tout ce qui est les rapports hommes-femmes. Voilà. Qui avant était vraiment le tabou, etc., et qui est démystifié grâce à cette expo. Je pense que c'est bien d'apporter justement ce côté éducatif, parce que maintenant on n'est plus dans une société qui est tabou sur ce sujet-là. Et il faut en parler. Et c'est aussi pour ça que quand on regarde le programme de l'éducation nationale, il est vachement axé aussi au niveau sur le collège, il est vachement axé éducation à la sexualité, etc. Et de toute façon, de nos jours, c'est presque une obligation, parce que c'est normal de connaître son corps et le...
Au collège et au lycée. Hein. Alors, officiellement, lycée, dans les instructions officielles, c'est 3 séances en seconde, 3 séances en première, 3 séances en terminale d'éducation à la sexualité. Malheureusement, par manque de moyens, comme ça arrive de temps en temps, c'est surtout fait une année au collège, éventuellement une année au lycée, mais, et par manque de formation aussi des personnels, puisqu'il faut que les personnels enseignants et autres de santé soient formés.
C'est pas trop mal aussi de faire ce genre de truc, parce que par exemple, les parents, il y a des parents qui osent pas trop en parler à leurs enfants,
c'est ce que j'allais dire,
ou inversement, et disons que dans des familles, c'est plus ou moins tabou. Moi, je connais des familles où c'est pas du tout tabou, des familles où on en parle moyennement, et des familles où on en parle pas du tout, donc ça donne vraiment une accessibilité vraiment générale.
Et puis c'est peut-être pas aux parents qu'on a forcément envie d'en parler aussi, en priorité. Ça dépend. Hein,
et
les
puis même parfois entre amis, on n'en parle pas forcément. On parle pas forcément des choses qui peuvent être éducatives à ce niveau-là. Donc
oui, voilà. On en parle peut-être plus sous le mode de la plaisanterie ou la boutade, là encore, ou de la vantardise ou que sais-je encore. On sait bien. Voilà. Et pas des choses vraies et des sentiments, parce que c'est d'abord ça, hein, ce sujet. Bah, sexualité, c'est d'abord des sentiments, d'abord des êtres humains. On parlait des animaux tout à l'heure. Il y a peut-être justement là aussi des différences entre la sexualité des animaux et celle des êtres humains. Enfin, on espère.
Ça dépend pour qui.
Ça dépend des animaux et des humains. Ça dépend pour qui, dit Jimmy. Tu veux développer? Non.
Non, non, non. Ça dépend de personne. Je parle pas.
Bien sûr. Personne. Enfin, en règle générale, quand même. Voilà. Nous sommes doués de sentiments, nous aussi. Enfin, nous, tout court, parce que c'est sensibilité, les animaux. On va pas revenir au sujet de tout à l'heure. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça fait au moins 3 personnes autour de la table qui sont allées ou connaissent quelqu'un. Donc ça veut dire qu'il a eu du succès cette expo. On n'est pas à Paris là. Hein. C'était à Paris à chaque fois où il y a eu des endroits décentralisés. Donc quand même, on est à 10, un petit peu loin de Paris. Et donc, certes, ça existe depuis 2007, mais je ne pensais pas qu'il y en aurait autant qui l'auraient vu de visu. Quentin et Louise ?
C'est vrai qu'aujourd'hui, ben, dans les cours de récréation, il y a souvent des propos homophobes et des injures sexistes. Et ça reste souvent entendu, malgré les évolutions de la législation. Voilà.
Et tu penses que ce genre d'expo, ça peut faire évoluer aussi ça, probablement, ce genre de mentalité?
Oui, je pense que oui, bah, avec toutes les activités qu'il y a et les personnes qui participent à cette exposition, je pense que ça peut être pas mal.
Vous emmèneriez vos enfants? Vous êtes un peu jeune, mais si vous aviez des enfants...
Oui. Moi aussi, j'emmènerais mes enfants.
D'accord, très bien. Dernière chose peut-être avec Louise et avec Flora. Louise, pardon, le micro.
Moi, je voulais dire que c'est important d'en parler avec ses enfants sur la sexualité, parce que vaut mieux en parler avant que de l'apprendre. Et ça doit être vraiment horrible pour des parents d'apprendre des choses sur leurs enfants qu'ils ne savaient pas. Je veux dire, c'est un petit peu bizarre. Bon, Flora, je te laisse la parole aussi.
Et ça peut être un prétexte pour en parler aussi, ces expos, justement.
Moi, je suis d'accord avec toi, Louise, mais je pense que pour les parents, ça doit être bizarre de leur en parler, à leurs enfants, de leur demander ce qu'ils pensent de certaines choses et tout ça. Donc, je pense que ça peut être un bon moyen d'en parler, de les aider à s'ouvrir à propos de ça.
Ben, contrairement, moi, je connais quelqu'un même qui trouve que c'est vraiment pas mal d'en parler, notamment avec sa fille, parce qu'il a qu'une fille, mais que c'est parce que c'est constructif, en fait. Ça permet déjà qu'ils partagent un moment ensemble, et puis surtout de parler de quelque chose, parce que lui, il a de l'expérience, et elle, pas forcément, ou elle en a moins. Donc c'est
entre parents et enfants. Par définition, je te confirme,
un problème.
J'ose espérer que le papa a plus d'expérience en la matière. Que
avec elle a quel âge, demandez-moi.
Elle a quel âge?
Je crois 17 ans.
Ah bon, je crois que c'était une petite fille, enfin elle, non, jeune aussi, voilà. D'accord, 17 ans.
Mais je sais que dans leur famille, ça n'a jamais été tabou, donc voilà.
D'accord, c'est dit. Merci à vous. Clémence, pas d'avis. Clémence, on ne t'a pas entendu non plus. Tu nous fais la sieste genre Mathieu, non? N'hésite pas à intervenir sur le troisième sujet, je sors. Tu vas avoir des choses
hier
à dire.
Hier soir, on a eu une petite soirée.
Une petite soirée à l'internat. Je suis arrivé ce matin, il y avait un décorum absolument. C'était lié à cette fête.
C'est la magie
de Noël.
Il y avait
une espèce de guirlande.
Ça, on peut remercier quelques terminales, je crois.
C'est la magie de Noël. On ne citera pas deux personnes ici. C'est la magie de Noël qui opère et les lutins du Père
Noël. Pendant la nuit, c'est le Père Noël qui est passé, c'est ça.
Ah, c'est justement tout le mystère et la magie de l'acte de Noël. C'est beau.
L'acte de Noël, d'accord, c'est intéressant comme expression. L'acte de Noël au lycée du Diois. C'était
un peu précoce,
l'explication
quand même, un peu en avance.
Un peu précoce par rapport à Noël. On va arrêter là de filer la métaphore et on va passer au sujet numéro 3.
C'est
donc,
une douce transition.
Là, ça va vous faire moins rigoler, je le sens. C'est faut-il supprimer, ou au contraire, ça va avec cette proposition, les notes à l'école. Donc juste pour situer rapidement les choses. Alors il faut savoir qu'il y a déjà eu de nombreuses expériences. On arrête les métaphores filées. Puisqu'il y a déjà 20 ans dans l'éducation nationale, on avait inventé un système de couleurs. avec des items, des critères en fait, orthographe, lexique, savoir compter, savoir résoudre une équation, enfin sur les matières, et plutôt que d'avoir des notes sur 20, parce que ça dévaloriserait certains, ça créerait une espèce de compétition, de comparaison entre les uns et les autres, eh bien on mettait, et on propose de revenir à ça, ou d'autres formules, mais notamment des systèmes de couleurs, donc plus de notes sur 20, mais un système de rouge et de vert, majorité de rouge, ben, c'est plutôt que ça va, pas, pardon, et la majorité, je ne suis pas habitué encore, et la majorité de vert, c'est là où on sait que ça fonctionne. Donc ça aiderait pour ceux qui sont pour ça, à savoir où précisément ça ne va pas. Alors, est-ce que vous pensez que c'est un bon système, ou est-ce que vous pensez qu'avec une note sur 20, accompagnée de commentaires à peu près les mêmes, précis sur ce qui va et ce qui ne va pas, ça n'en revient pas au même. Clémence. Ah, je savais qu'elle allait se rattraper.
Après, les notes, souvent, bon, c'est bien pour situer à peu près comment, à quel point, enfin, comment, est-ce qu'on y arrive ou pas. Mais quand on a des mauvaises notes, souvent, ça décourage et ça fait perdre la confiance en soi. Donc, des fois, c'est peut-être pas une bonne chose d'avoir des notes.
Et tu penses qu'un autre système permettrait d'avoir davantage confiance?
Ouais, bah, ça changerait un petit peu les choses, je pense, déjà.
D'accord.
Après, un système avec du rouge et du vert, voilà, t'es vert, t'es blanc, t'es rouge, t'es nul.
Toi, t'as du rouge et du vert sur ton visage. C'est dû à la fête d'hier ou... Non, on continue dans les coulisses, mais au moment où il parle de rouge et de vert, je vois sur sa joue un trait vert et un trait orange. Si les parents d'Ilan écoutent, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. Mais je pense qu'il s'est maquillé, on l'a maquillé pendant le... C'est discret, hein, je vous rassure, mais il s'est passé des choses, visiblement. Il se passe toujours des choses au lycée, lui dit. Ouais. Surtout la journée où on y travaille ardemment, mais visiblement.
Surtout à l'internat.
Quelques jours avant Noël à l'internat, il s'en passe d'autres. La nuit, oui, nous écoutons Jimmy.
En fait, je suis... D'accord, mais pas trop non plus avec Ilan. C'est-à-dire que rouge et vert, c'est peut-être pas assez précis. Mais un système de couleurs accompagné d'une appréciation, ce serait sûrement préférable. Parce qu'au bout d'un moment, les notes, elles ne valent plus rien. C'est-à-dire qu'encore au lycée, elles valent encore quelque chose. Mais après, à la fac, ça devient tellement dur que avoir des notes en dessous de 10 sur 20, ça devient normal. Mmh. Alors qu'à la base, c'est quand même censé nous dire que non, on n'a pas réussi. Alors que là, c'est tellement dur qu'avoir 9, c'est bien. Je sais, parce que j'ai une sœur qui est justement à la fac et elle a 9 de moyenne dans certains trucs. Et. Il n'y a rien de choquant, c'est même quasiment très bien qu'elle ait 9 de moyenne. Donc au bout d'un moment, ça ne veut plus rien dire. Mais comme disait Clément, ça fait perdre confiance en soi si on a des mauvaises notes. Puis même des trucs qu'on n'a pas compris, au lieu de nous encourager à les comprendre, une fois qu'on a un contrôle, qu'on a eu 8, qu'on n'a pas compris, on a juste envie de dire c'est bon, quoi, j'ai eu 8, maintenant c'est passé. Ça ne nous encourage pas à continuer parce que c'est vraiment trop grand à trop grande échelle.
Alors, les autres systèmes n'ont pas de couleur mais avec 3 niveaux, expert, moyen et insuffisant, je crois. Alors ça va peut-être un peu plus nuancé.
Une appréciation aussi, je pense, ce serait sur le bulletin par exemple. Même s'il n'y a pas de notes, il n'y aurait pas de moyenne aussi, mais par exemple une appréciation sur le bulletin qui dirait par exemple si il voit que l'élève ne fait absolument rien, ne fait rien, il le sacrait sur l'appréciation. Donc là, il y aurait justement une preuve de ce que dit le professeur. Et au contraire, si l'élève justement ne comprend pas forcément bien, mais que il bosse, justement l'appréciation serait qu'il bosse, même s'il n'a pas tout compris, ce serait peut-être mieux.
D'accord, Marion.
Moi personnellement, je suis contre la suppression des notes parce que pour moi, 3 couleurs, c'est pas assez implicite. Alors qu'une note, ça va de 0 à 20. Enfin, on a quand même plus de détails et les appréciations, les appréciations, on peut les mettre pour les couleurs ou pour les notes, ça change rien.
Donc tu as besoin de aussi. Est-ce que c'est pas aussi pour se comparer, sans forcément faire de la compète, mais est-ce qu'il n'y en a pas parmi vous qui ont besoin de savoir se situer dans une classe et... Alors que le système de couleurs, c'est plus compliqué, ça peut se faire aussi, mais c'est plus flou. Non, il n'y a pas besoin de savoir si vous êtes au milieu, dans le dernier quart, dans le premier quart. Non,
si,
vous êtes
avec
pas...
les parents.
Donc c'est les parents.
Si on est dans le dernier, généralement, si ça passe toujours mieux, si tout le monde a eu une très mauvaise note au contrôle. Et que du coup on est situé dans le premier quart même avec une mauvaise note, on se fait forcément moins.
C'est vrai.
On se fait forcément moins réprimandé, j'ai dit.
Avec les couleurs c'est plus compliqué, c'est parce que s'il faut avec que tu couleurs, récupères c'est... les couleurs de tout le monde,
c'est ça
va
c'est
être la galère.
Plus compliqué, puis aussi c'est là ce serait vraiment jugé que par la prestation et par par les choses acquises, et à ce moment-là ça nous donnerait juste plus envie de les acquérir.
J'écoute les autres juste après, mais juste si vous voulez répondre à cette question-là ou pas, mais j'en pose une autre en intermédiaire et le prochain ou les prochains y répondront. Est-ce que le fait de savoir là où ça ne va pas, donc d'avoir des critères, vert à tel endroit, rouge à tel endroit, ça suffit à savoir comment faire pour que ça aille mieux? C'est-à-dire que c'est un constat, ça c'est un diagnostic du professeur partagé avec l'élève, mais est-ce que ça donne des solutions pour autant? Oui.
Donc moi je pense qu'il faudrait ni vert, ni rouge, ni note. Simplement une appréciation qui expliquerait ce qui va pas, ce qui est bien. Donc ça permettrait simplement déjà à l'élève de progresser en sachant ce qui va pas. Et ça éviterait de cadrer les élèves dans des notes avec des bons, des mauvais, et qu'ils soient dans ces catégories-là. Parce qu'à partir du moment où on va avoir des mauvaises notes au début, c'est ce qui se passe assez souvent, on se qualifie dans notre tête comme un mauvais élève. Et donc les notes n'évoluent pas tant que ça.
D'accord.
Ouais. Et c'est vrai aussi que le but de l'école, à la base, c'est d'apprendre et pas avoir des bonnes notes, quoi. Donc dès qu'on nous met des notes, tout de suite, il faut avoir la meilleure note, il faut avoir au-dessus de la moyenne, sans vouloir apprendre plus ou mieux apprendre, quoi.
Quentin, Lou, Louise et Ilan, le sujet passionne. Oui. Essayez de répondre en cours de route à ma question si vous ne l'avez pas oublié. Vous n'êtes pas obligé, mais Quentin. C'était, est-ce que le fait de savoir là où ça va pas, ça donne des solutions pour que ça aille mieux? Enfin, c'est un peu une question rhétorique, hein, c'est ce que c'est une question rhétorique. Même si je vais pas forcément donner mon avis, mais il y a un peu la réponse dans la question. Quentin?
Ouais, moi je serais plus d'avis pour enlever les notes et mettre une mise en place de couleurs. Parce que quand un élève a un 5 sur 20, il sait pas forcément pourquoi. Qu'est-ce qui lui a manqué, quel domaine il doit approfondir ou pas, alors que c'est l'idée d'avoir une évaluation formative et bienveillante qui donne des conseils et aide l'élève.
Ça, c'est, on dirait, un langage professoral, hein, c'est impressionnant. Effectivement, ça s'appelle dans le jargon professoral l'évaluation formative et pas sommative. Ce qu'on appelle l'évaluation sommative, c'est sur un ensemble de connaissances sur plusieurs semaines de cours. C'est donc un gros devoir, on va dire. Et la formative, mais qui peut être notée ou pas, c'est pour ça que tu dis ça, ou pas, justement, elle est en cours de formation et donc elle n'est pas une note sanction en quelque sorte, c'est pas considéré comme tel. Certains professeurs pratiquent ça, je ne suis pas certain que ce soit la totalité, parce que certains font aussi l'évaluation formative, forcément, il y a au moins 3 connotes dans un trimestre, mais mettent quand même une note. On avait dit, je crois, Lou, Louise et Ilan dans l'ordre, et on reviendra dans le secteur Roman, Louis.
Moi, je suis un peu d'accord avec tout le monde et d'accord avec personne, dans le sens où je vois des points positifs et des points négatifs à tous les systèmes. Je pense le seul point positif des notes, c'est qu'on se situe dans l'ensemble des connaissances qu'on a acquises. Ça veut dire que sur un devoir, si on va ne rien connaître, on va forcément avoir une mauvaise note et on se rend compte que rien ne va plus. Et si on a justement une bonne note, on va pouvoir se dire j'ai bien appris ma leçon, c'est bien. Mais sauf que voilà, quand on voit pas où on a raté, on peut voir grâce à la correction du professeur. Ou juste les choses soulignées ou mises en rouge.
Correction s'il y en a. Hein.
Correction s'il y en a, il n'y en a pas toujours.
Le fameux stylo rouge.
Le fameux stylo rouge que tout le monde connaît et que tout le monde a eu sur ses copies, j'espère. Ou alors, on appelle ça un surdoué. Aussi, je pense préférable les couleurs ou un système de mise en valeur de ce qu'on a appris plutôt que de ce qu'on n'a pas appris. Dans le sens où, si on a des couleurs, on va voir... Tiens, j'ai bien vu tel point, sauf que je n'ai pas vu tel point. Alors qu'avec une note, c'est quelque chose de global et on ne va pas voir dans la précision. Et après, par contre, l'appréciation, c'est la chose que je trouve la mieux dans tout ça, entre parenthèses, parce qu'elle donne vraiment l'avis du professeur par rapport à ce qu'a fait l'élève. Donc moi, je serais plutôt pour les couleurs.
Ah d'accord, je m'attendais à une autre conclusion vu la phrase d'avant. Tu es un peu partagé, mais quand même, si tu devais choisir...
Pour les couleurs, avec une appréciation qui donnerait... Je serais plutôt pour
les
tout
deux,
mettre,
quoi.
En fait.
Tu veux
plutôt
le, pour tout mettre. Le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crème.
Exactement.
D'accord. Bon, ça fera un peu plus de boulot pour les professeurs, mais ils sont habitués.
Bah ouais.
On leur demandera leur avis. Je crois qu'on en était à Louise et à Ilan. D'ailleurs, pardon, si vous êtes professeur, 0952 368 531, n'hésitez pas, 0952, il paraît que je vais chaque fois trop vite, 0952 368 531, 0952 368 531. 31. Louise.
Moi, je suis un peu d'accord avec Lou sur le fait qu'en même temps, je suis d'accord avec tout le monde et en même temps, y a quand même des points négatifs. Mais je pense que les couleurs vont bien pour l'école primaire parce que les enfants ont pas besoin de forcément se situer, avoir des notes précises. C'est plutôt des compétences à acquérir. Et après, pour le lycée ou pour même le collège, je pense que les notes sont mieux adaptées. Ça permet de noter plus précisément et de mieux. Mais c'est mon avis après. Mais. Je suis un peu partagé entre les deux, mais je pense que les notes me conviendraient le mieux.
D'accord, Ilan, qu'est-ce que tu voulais dire sur la question? Vous êtes enseignant, vous êtes élève, vous êtes parent d'élève, Vous êtes élève de seconde, élève de collège, vous appelez Nicolas, Nathalie, Silver, n'hésitez pas à nous appeler au 0952 368 531. Il faut se réveiller, chers auditeurs. Ilan.
Oui, ben, mais dans les écoles primaires, ça existe déjà des systèmes de compétences. Moi, je me souviens que je n'avais pas de notes à l'école primaire. Et c'est vrai que c'est tout à fait adapté, je pense.
Bon, on voit ce que ça a donné, hein, un garçon qui est de rouge et de vert, donc combien d'années après ? 10 ans après, je plaisante, c'était une boutade. Ça n'a rien à voir, pardon.
Et après, par contre, je pense qu'il faudrait presque adapter un système de notes à chaque période de la scolarité, quoi, parce qu'au collège, c'est vrai que des compétences, je pense que ça ne servira à rien. À mon avis, au collège, on travaille pour la... Enfin, moi, personnellement, c'était un peu comme ça, je connaissais pas mal de monde. À mon avis, c'est un peu comme ça aussi, qui travaille pour la note, pour avoir la meilleure moyenne, ou pas du tout d'ailleurs, ou qui s'en foutent. Donc c'est peut-être là le problème, c'est que soit ça motive vraiment, soit ça démotive vraiment. Mais je pense qu'au collège, je vois pas trop d'autres solutions, parce qu'on n'a pas forcément une conscience dans l'avenir. Il faut que je travaille pour pouvoir avoir des bons résultats, gagner les concours, et voilà. Mmh.
Il y a quelqu'un qui a 6 rouges et 1 vert, ça motive beaucoup plus qu'un 5 sur 20, honnêtement. Ça ne se résume pas à ça, hein, la notation. Enfin, l'absence de notation, ce n'est pas que les couleurs, mais c'est par exemple ça. Est-ce qu'avoir du rouge partout et avoir 1 vert, ça donne énormément de
satisfaction ? Non, ça ne peut pas être tellement possible, mis à part s'il n'a absolument rien compris.
Dans l'absolu, ça doit être possible. Il n'y a pas de raison que les notes aillent de 0 à 20 et qu'il n'y ait pas des possibilités qu'il n'y ait que du rouge partout.
Soit il l'a voulu. Oui, non, quand je dis ça, c'est-à-dire que par exemple, il n'a absolument pas bossé sur son contrôle et du coup, il est arrivé devant, il est rendu copie blanche. Voilà.
C'est aussi ce qui t'arrive quand tu te prends 6 sur 20.
Oui, non. Il y a une différence. Un 2 sur 20. Non, il y a 6 rouges et 1 vert. Ça équivaudrait à 3 sur 20. C'est-à-dire que tu n'aurais absolument rien compris et tout. Quand tu as une note du type 6, ça serait des trucs rouges, des trucs oranges, des trucs verts. Ça serait plutôt mitigé, tu vois. Pour moi, tu peux pas quasiment pas avoir que du rouge. Tu auras forcément toujours, même
là,
si tu as bossé, tu as toujours compris au moins quelque chose dans le contrôle. Donc, même si tu l'as plus ou moins compris à grande échelle, tu auras un acquis à moitié, un acquis, un non-acquis, tu vois. Tu peux pas avoir que des non-acquis.
J'ai l'impression que sur un 6 sur 20, par exemple, il va y avoir rarement au moins un morceau positif dans l'appréciation, c'est ça, en fait?
Il peut y en avoir un si jamais il se rend compte qu'il fait des efforts. C'est-à-dire qu'il peut, je le sais, hein, en connaissance, parce que moi, par exemple, cette année, j'ai 9 de moyenne en maths, hein, je le cache pas. Les deux premiers contrôles, c'était 6,5 et 7. Pourtant, c'est pas que...
Première quoi?
Première S. Voilà. Pourtant, c'était...
Ça, c'est pas sympa, Lou.
Non.
Je demandais.
Non, mais c'est juste que, voilà, c'est-à-dire que pour avoir 6, c'est vrai qu'il y en a qui peuvent avoir 6 en n'ayant absolument rien foutu et ils aient quand même 6. Parce qu'ils ont des capacités et qui... Mais en bossant, les deux premiers contrôles, j'ai bossé, j'ai eu 6,5 et 7. Et c'est qu'il y avait des trucs que j'avais pas compris et d'autres... donc il y avait des trucs qui étaient forcément non acquis, mais d'autres qui étaient acquis. Et le truc de la note, c'est vrai que ça m'a pas tellement motivé. C'est pour ça que d'ailleurs, je suis pas du tout d'accord avec Louise, qui dit qu'en primaire, il faudrait des codes de couleurs et au lycée, collège, des notes. Je pense que ce serait peut-être même plutôt l'inverse. Au collège, Ilan disait qu'il avait raison. Je trouve qu'Ilan avait raison. C'est-à-dire qu'au collège, on a cette motivation de la note quand on est petit. Ça nous fait quelque chose vraiment d'avoir des bonnes notes. Ou alors, bon, à d'autres, pas du tout. Mais même en 6e, 5e, on reste toujours content d'avoir des bonnes notes, de se faire féliciter, etc. Donc peut-être au collège, les notes sont encore possibles. Mais au lycée, quand on commence à avoir conscience des choses, qu'on a conscience de ce qu'on veut dans l'avenir, qu'on a un avenir à préparer, justement, les compétences seraient peut-être plus valables, entre guillemets, donc dire qu'on a acquis ça ou pas, que des notes qui, au lycée, démoralisent beaucoup plus si jamais on a une mauvaise note et qu'on a tout fait pour en avoir une bonne.
Tu as de bonnes notes en maths, toi, Lou ? Parce que tu te moquais gentiment de Jimmy tout à l'heure. Vous voulez connaître les notes de Lou en maths ? 0952 368 531. Ça va faire rappeler,
Jean-Pierre. Je sais pas ce qu'il a en
seconde. Je précise.
Oui, on a bien compris que tu avais bien taclé le jeune Jimmy en disant qu'il était en première S et que les maths comptaient pas du tout. On a bien compris que c'était le message que tu voulais.
Non, puis les maths sont pas du tout.
Ah non, en première S, pas besoin de.
Non plus. Tu as raison, Jimmy.
Il faut savoir, niveau compétences aussi, en sciences, donc en SVT, en physique, en terminale, on évalue en compétences. Je sais pas si c'est pareil.
Oui, ça existe déjà dans certaines matières, effectivement. Dans à peu près toutes, d'ailleurs.
Non,
en seconde aussi, ça existe. Hein.
En fait, les systèmes de couleurs, Joris, ça correspond à ça, à ce qu'ils appellent des items, c'est-à-dire à des compétences. Oui, dans chaque devoir, il y a 5, 6, 7 compétences.
Nous, c'est ce qu'on fait en SVT et en physique, notamment en TP, en exercice et autres. Hein.
Et donc la note est accompagnée, il y a toujours des notes quand même, j'imagine.
Oui, après ça,
c'est accompagné de couleurs aussi ou d'items ou de
par contre, ils retranscrivent ça en notes en fin de trimestre.
Et à la fin.
Oui, mais les compétences, ça apparaissent où concrètement?
Bah, sur une feuille.
Sur une feuille. D'accord.
À la fin du TP, le professeur vient et valide ou non la compétence.
Ouais. D'accord.
On a déjà ça en SVT nous en seconde.
Ouais, on l'a déjà. Bon.
Et ça vous aide donc.
Et en physique aussi.
Franchement, je trouve ça très utile moi.
Ouais, parce que ça nous donne un objectif à travailler pour la prochaine fois. Ça nous donne justement, on voit qu'on a acquis ça, on pourra retravailler justement que ce qu'on n'a pas acquis, alors que quand on a 6,5, bah, c'est pas très explicatif, je trouve.
Il faut tout revoir.
C'est 6,5. D'accord. On voit les exercices qu'on a fait, mais tant on a perdu des points là, donc en fait, on sait pas vraiment là où on n'a rien acquis.
On a jusqu'à 13h15, ami technicien, normalement.
si, c'est oui, c'est 15, mais c'est 5. Hein, donc,
d'accord. Le technicien qui s'affole, mais ils ont raison, il faut respecter le timing, n'est-ce pas? On a tellement commencé à l'heure. On aurait même le droit à 2 minutes de débordement, mais on va essayer de s'arrêter à 13h15 pour la suite des programmes.
Petit renseignement en plus gestuel.
De Radio Diwa.
Pour la bonne gestion du professeur.
Merci, Julien.
Je vous en prie, avec plaisir.
Et ça se voulait discret, et à cause de moi, tout le monde est au courant derrière la radio de ce qu'on est en train de faire, là, de gérer le timing, car nous sommes parfaits, le timing. Sauf qu'il y a souvent un petit retard à l'allumage. Soyez courageux et persévérants. En général, on vous annonce parfois midi 10, on est là midi et quart, mais enfin, au plus tard, hein, on a 5 minutes de retard. Donc ne coupez pas la radio. D'abord, restez toujours à l'écoute de Radio Diwa, la radio des Diwa, du Diwa, et même au-delà, 107.5. Non, on perd pas de temps, là, c'est important. Il faut faire un peu de publicité pour notre radio locale. On termine sur les notes parce qu'il faut qu'on dise quelques mots quand même sur le djihad, peut-être aussi sur les inondations de plus en plus présentes en France. Y a-t-il des explications, des solutions? On va pas tout régler en 5 minutes, mais est-ce que vous avez un avis là-dessus? Est-ce que vous avez envie de vous établir au bord de la mer? Parce que ça commence à faire de plus en plus peur, vraiment au bord de la mer ou au bord des océans en France. Oui, on termine donc sur les notes avant ça avec la jeune Romane et le jeune, je ne le vois pas, il est caché par Clémence, le jeune Louis. Romane et Louis?
Moi, le problème principal que je trouve aux notes...
Vas-y, ils vont s'occuper du téléphone.
C'est que, moi, quand on reçoit les bulletins, le truc que j'entends le plus, c'est pas « Oh, je suis déçu de mon bulletin », c'est « Ah là là, mes parents, ils vont pas être contents ». Donc les notes, j'ai l'impression que c'est principalement pour ses parents que pour soi-même. Donc ça, c'est dommage. Et en plus, je trouve que vraiment, le problème, c'est que quand il y a des gens, ils bûchent vraiment, ils bossent et tout, et ils se tapent la même note que des gens qui ont pas travaillé du tout. Donc les notes,
voire
bah,
moins,
c'est, voilà,
voire
c'est
moins.
Donc les notes, franchement, vraiment, je trouve c'est une bonne idée de.
Donc ça rend plus service à vos parents qu'à vous, c'est ce que tu es en train de dire. Enfin, ça donne un baromètre à vos parents.
Oui, voilà,
oui, c'est plus ça.
Voilà, enfin, moi, je m'inquiète plus de mes parents que de moi quand je reçois mon bulletin.
Parce qu'en même temps, des parents qui sont pas forcément spécialistes, je les prends pas pour des imbéciles, loin s'en faut, mais qui sont pas des techniciens de toutes les compétences des différentes matières, recevoir un tableau avec 15 compétences par matière, ça va être un peu compliqué à lire quand même. Enfin,
de toute façon, je pense que c'est plus des notes et tout. Enfin, moi, je trouve que c'est
ça parle plus de toute façon la note.
Les commentaires qui sont importants dans le bulletin.
Les commentaires, bien sûr.
Genre, il bosse, c'est bien, mais même si il réussit pas trop ou il bosse pas, c'est dommage.
D'accord. Louis, pour finir.
Donc moi, c'est juste en restant sur les notes. J'avais lu quelque chose il y a longtemps dans un magazine. C'était par rapport au fait qu'on ait des notes, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais qu'on parte à la base du contrôle de la note de 0 et qu'on gagne des points, plutôt que du fait de partir de 20 et de perdre des points. Parce qu'en fait, partir de 0, ça donne à la base l'effet que l'élève en fait nul et qu'il ne connaît pas de connaissances s'il ne les écrit pas. Alors que de partir de 20, on considère que les élèves le savent en fait.
Est-ce que tu expliques? C'est exactement le système des couleurs qui, comme le disait Jimmy, fait qu'il y a toujours quelque chose en général qui est positif. Donc oui, c'est intéressant ce que tu dis. Mais ça, à la limite, c'est presque à ceux qui reçoivent les notes, enfin ceux qui les conçoivent aussi, mais d'avoir ça dans leur tête et de se dire qu'effectivement, si on a 6, on n'est pas content, ben ça veut dire qu'on a 6 points par rapport à quelqu'un qui n'a rien rendu et qui aurait 0, bon évidemment, ou quelqu'un qui a vraiment fait quelque chose de très mauvais ce jour-là et qui aurait 2 ou 3. Bien sûr, après ça reste un 6 sur 20, mais oui, on peut le concevoir aussi comme ça. On essaye de convaincre parfois les élèves qui ont 6 que c'est quand même 6 points. C'est difficile, il faut qu'ils soient persuadés de savoir où sont les 6 points en question. Allez, Lou, on termine vraiment parce qu'il faut qu'on passe au coup de cœur, coup de gueule.
Point que je trouve peut-être un peu qui est mieux dans le système de partir de 0 et d'aller jusqu'à 20 que dans le système de partir de 20 et d'aller jusqu'à 0 dans le pire des cas, c'est que je trouve ça plus encourageant de dire j'ai gagné 3 points que j'ai perdu 17 points. Enfin, le chiffre déjà dans les deux cas est plus élevé et en plus on parle de perdre. Enfin, je sais pas, je trouve ça un peu démoralisant.
À la limite, avoir 3, c'est toujours assez démoralisant.
Oui, c'est démoralisant dans tous les cas, mais je trouve ça encore plus démoralisant de se dire qu'on a perdu les 3 quarts du contrôle.
Puis si les gens veulent vraiment des notes, ils peuvent aussi très bien, à la fin du trimestre, vraiment toute fin, en fonction des acquis, des non-acquis, faire une moyenne finale. Exactement. Mais au lieu du coup d'avoir des démoralisations tout le long du trimestre, il en aura peut-être une à la fin en se disant bah, « j'ai eu du mal à acquérir ça » ou alors « j'ai absolument rien fait, il faut que je m'y mette ». Que tout le long du trimestre, là il aura compris la moitié, du coup il aura eu que la moitié des points, et puis là il n'aura compris que le quart, du coup il aura eu que le quart des points et il sera fait tuer.
C'est aussi des termes qui sont employés dans les nouveaux systèmes de pas notation, si je peux dire, tu as raison, c'est acquis, non acquis ou partiellement acquis. C'était ça aussi qui remplace parfois le système des couleurs.
Je dirais moins binaire, aussi, ternaire. Plus favoriser les notes moins précises, du coup, pour. Parce que sur 20, il y a 20 points, et si on diminue, je dirais à 10, si par exemple on a 4 ou 2, 3. C'est moins dévalorisant que 6 sur 20. Moi, je vois, enfin sur le truc, c'est même sur 5.
Si tu perds les points de plus vite aussi, vu qu'il n'y a que 10 points, tu peux forcément, d'un côté, t'en perds 20. Ouais, mais d'un côté, t'en perds 20, de l'autre, t'en perds 10. Donc, t'en perds 10 en ayant 20, sur une note sur 20, t'as la moyenne, t'as 10. T'en perds 10 sur 10, t'as 0.
De toute façon, le repère à la référence, c'est 10, effectivement. Donc, c'est la fameuse moyenne. La fameuse moyenne.
Ouais, mais les points, du coup, ils sont différemment répartis.
Après, de notre côté, on peut, par exemple, le mettre sur 20 ou sur 30, ça dépend. Dans la tête, quoi.
Bon, donc quand même le débat est clairement ouvert visiblement entre vous aussi, et j'ai l'impression que se dégage une petite avance, si je puis dire, voire sensible avance sur plutôt pour la suppression des notes et de nouveaux systèmes. Donc on va voir ce que vont donner les on me fait des signes nuancés, c'est partagé, mais quand même j'ai pas vu beaucoup de défenseurs bec et ongles de la notation sur 20 quand même depuis tout à l'heure. Alors pourquoi pas, à suivre. Je pense pas que ça vous concerne vraiment vous, en tout cas au lycée, parce que vous êtes un peu vers le début pour la plupart, mais vers la fin pour d'autres. Mais je pense que ça va être d'abord au collège dans un premier temps. Et il y a déjà des expériences qui sont faites au collège, notamment au collège de Cré, qui est quelques kilomètres d'ici même, où il y a quelques classes qui pratiquent ce système de notes, d'absence de notes, plutôt. Alors, dans ces 15 derniers jours, qu'est-ce qui s'est passé, qui vous a intéressé, qui vous a fait réagir, qui vous donnerait envie de pousser un coup de gueule? J'ai suggéré quelques sujets tout à l'heure, mais il peut y en avoir d'autres. Julien, nous t'écoutons.
Alors, moi, je vais commencer par un premier petit coup de gueule à Canal+, parce que cette semaine, on a eu une petite révélation, notamment que Canal+ avait caché de la drogue dans la marionnette de Jacques Chirac lors d'un déplacement.
Je l'avais entendu, ça.
Lors d'un déplacement au festival de Cannes. Oui, moi je dis pourquoi pas, mais je trouve que voilà, c'est des affaires qui ont rien
cannabis,
à faire.
Cannabis, je crois.
Oui, une boulette
soyons
de
précis.
Cannabis.
Ça reste la drogue. Mais...
Dans la marionnette de Jacques Chirac, ouais, moi je trouve ça déjà nul de faire ça sur des... c'est clairement un centre d'intérêt, la télé, qui a rien, pour moi rien à voir, rien à faire avec les choses illicites, la drogue, etc. Donc oui, petit coup de gueule aux journalistes de Canal+, ou en tout cas aux marionnettistes qui, enfin je sais même pas si c'est eux, mais en tout cas à la personne en cause. Voilà, je trouve ça dommage d'entacher un peu ces images.
Coup de cœur à celui qui a dit ça, ou il fallait pas qu'il le dise?
Non, pas forcément coup de cœur à celui qui l'a dit, mais
il a eu raison de
le dire,
ça sert à rien.
Il a dit,
trop
on
tard,
sait, tant mieux, il aurait pas dit, voilà, ça serait passé, on l'aurait pas su.
Prescription.
Mais bon, moi je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, je sais pas si y en a qui ont entendu parler. Lou, t'en avais entendu parler?
Oui, j'en ai entendu parler. Justement, moi, je fais un petit coup de cœur à comment je l'ai appris et comment c'était formulé, comment je l'ai appris. C'est bizarre à dire, mais c'est pas grave. Ils ont justement les marionnettistes, enfin la personne qui l'ont fait, ont mis la résine de cannabis, 1,5 kg je crois, de si je m'en souviens bien, dans la tête de la marionnette de Jacques Chirac, parce que si il se faisait prendre, les gros titres, ce serait de la résine de cannabis dans la tête à Chirac.
1,5 kg, oui, de shit dans la tête à Chirac.
Et ça m'a vraiment fait marrer.
Connaissant que c'est plutôt drôle, ça présente
ouais,
comme
c'est
ça.
C'est exactement ça.
Oui, c'est vrai, mais bon, faire tout ça juste pour ça,
oui,
je sais pas si.
Un peu
c'est
beaucoup.
Ouais, ils ont risqué gros. Hein.
Voilà.
Moi, ça m'a fait beaucoup rire et voilà, je l'ai pris par hasard et je me dis bah, en plus c'est les. J'ai oublié le nom, mais c'est des marionnettes qui font qui reproduisent les
guignols.
Les guignols. C'est les guignols. C'est quelque chose de franchement ludique et en même temps d'actualité. Et je vois pas pourquoi ils le mettent en danger entre parenthèses. Parce
disons que ça tombe un peu dans la caricature habituelle du show business télé, un peu fête et tout ce qui va avec, quoi. C'est un peu dommage, peut-être.
Ouais,
c'est bon. C'est ainsi. D'autres choses?
Aucun autre.
C'est français qui partent. Faire le djihad, qu'est-ce que vous en pensez?
On peut
à 20 ans ou parfois plus jeune décider d'aller combattre son pays à l'étranger, et plus que combattre, être prêt à mourir pour, et à se sacrifier, et à sacrifier les autres. Oui.
Je pense que déjà, d'une part, ces gens ne doivent pas être très très bien dans leur tête, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont totalement insensées et inhumaines dans, ces, dans leur pratique, notamment... des pratiques qui ne sont pas faisables et qui ne devraient pas être faites, tout ça pour une défense de pays, pour une défense de religion, pour une défense de morale. Je trouve ça totalement nul, et je pense que même ces gens ne sont pas totalement sains d'esprit quand ils partent mourir pour leur pays. Carrément, ils disent qu'est-ce qu'il vaut mieux, mourir pour son pays et que ça ne change rien, ou ne pas mourir et rester en vie, parce que ça change absolument rien. Et je pense qu'on peut pourrait y faire grand chose, on pourrait faire quelque chose, mais de notre côté, on peut pas non plus lutter totalement comme le voudraient les États-Unis, notamment depuis leur plan, là, depuis 2001, depuis les tours jumelles, car c'est pas en tuant les plus grands dirigeants que ça, la suite ne sera pas reprise.
D'accord, Louise et Clémence, sur le même sujet.
Oui. Moi, je comprends pas comment est-ce que, enfin, ils partent et ouais, ils mettent leur vie en l'air, et alors qu'ils sont encore jeunes et ils ont une vie à vivre, et partir faire la guerre, ben, je comprends pas comment est-ce qu'on peut changer de comportement comme ça.
Clémence.
Moi, ma mère, elle m'en a parlé il y a quelques semaines, parce que bon, bah, ça inquiète évidemment, et elle avait vu un reportage à la télé, et ça expliquait comment le pays faisait pour embrigader ces jeunes. Et donc, apparemment, ils arrivaient à introduire des images dans des films pas vraiment connus, des mini-images entre les secondes, et ce qui fait que notre cerveau...
Subliminal.
Ouais, voilà. Et du coup, ça nous influence sans qu'on s'en rende compte, quoi.
Enfin, ça influence les gens qui ont déjà cette idée en tête, ou qui... sont pas non plus totalement conscients, parce que oui. Je sais que moi, même si j'envoie des images là-dessus, qu'elles soient subliminales ou pas, je n'irai jamais me battre, excusez-moi, ou me suicider pour une quelconque cause. Je préfère vivre ma vie. Et voilà.
Ça nous rassure, Jimmy. Après, j'espère que tous autour de cette table, nous avons le même état d'esprit.
Après, c'est la liberté de chacun.
On a tout coupé.
Nous ne sommes plus à l'antenne. On ne s'entend plus. Si, bon, de nouveau.
On s'entend à moitié.
Bon, peut-être un dernier mot, puisqu'avant qu'on nous coupe définitivement. Allô, allô. Avant de nous dire au revoir, un petit dernier mot sur...
Oui, c'est juste que je trouve ça totalement stupide, parce que la plupart des jeunes qui y vont, ils se suicident. Ils vont se tuer pour... ils vont se tuer pour quelque chose, et ça va rien avancer. Donc autant qu'ils vivent leur vie et que ça change rien, qu'ils meurent et que ça change rien dans tous les cas. Donc vaut mieux vivre sa vie, quoi, je pense.
D'accord. Puis c'est des gens qui ont quasiment votre âge, hein, c'est ça qui fait... Enfin, ça fait peur quoi qu'il arrive, mais voire un peu plus jeune. Eh bien, chers auditrices, chers auditeurs, nous vous remercions d'avoir été fidèles. On vous rappelle donc que tous les rendez-vous à partir de janvier 2015, nous serons déjà en 2015, c'est le dernier mercredi du mois, c'est systématique. Vous avez vos agendas avec vous, jeune Joe ? Moi non plus. Mais regardez, ça doit être de mémoire, puisque la journée porte ouverte à la cité scolaire du Diwa, c'est le 30 ou 31 janvier. Donc vous prenez le mercredi d'avant, ça doit faire le 28 ou le 29, quelque chose comme ça. Il est en train de regarder son agenda, Quentin. Vous n'oubliez pas de nous appeler. Merci aux personnes qui nous ont appelés, et notamment au monsieur tout à l'heure.
Ce sera le 28.
N'hésitez pas, c'est le 28. Merci. Donc, prochain rendez-vous, prochain CCC numéro 24, c'est le 28 janvier 2015. Nous retrouvons toute cette fine équipe à entre 12h10 et 12h15. On va être prudent, mais c'est promis, nous serons au rendez-vous. Passez de très bonnes fêtes.
Joyeux Noël.
Joyeux Noël, bonne année.
Hurlez pas dans les micros, vous allez faire peur aux éditeurs, ils ne vont plus revenir après. La bonne année, on la gardera pour 2015. Rendez-vous donc en 2015, merci à tous. Restez à l'écoute de 107.5.
Au revoir.
Au revoir.
Merci, au revoir.
À la prochaine.